France Culture. Olympe Versigny, bonjour.
Bonjour Caroline.
C'est le troisième épisode de Nos Avoix Nues qui en compte cinq. Et pour ce troisième temps, nous sommes au début des années 80, à l'époque où vous devenez la Reine de Paris. Alors la Reine de Paris, c'est le surnom que vous donne le grand chef Jacques Maximin. C'est pas n'importe qui à l'époque. Vous déménagez rue Nicolas Charlet dans le 15e arrondissement en 1979. Même année où vous obtenez 3 tocs et 18 sur 20 au Goemio, ce qui est rare. Et 2 ans plus tard, vous voilà auréolé d'une étoile au Guide Michelin. Donc là, c'est vraiment la consécration. Les chefs viennent de plus en plus. Alain Sandrins, Paul Bocuse, vous disiez Pierre Troisgros, continuent de venir. Est-ce que à ce moment-là, vous fréquentez le milieu gastronomique? Eux viennent, mais est-ce que vous allez chez eux?
Alors, je vais parfois chez eux. Oui, par exemple, Michel Guérard, j'aime aller chez lui. Bocuse, j'y suis allée en fait que 2 fois. Quant aux autres, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas tellement de temps. Je voyage beaucoup pour le travail aussi. Et donc, je ne peux pas dire, il y a beaucoup d'endroits où j'aurais voulu aller, où je ne suis pas allée. Par exemple, Alain Chapelle, c'est un grand regret alors qu'il vient chez moi. Je suis très triste de ne pas avoir connu sa cuisine parce qu'il paraît que c'était un cuisinier de génie. De génie. Voilà.
En 1982, vous êtes invité sur le plateau d'Apostrophe, Bernard Pivot, parce que vous sortez votre deuxième livre, La cuisine d'Olympe. Et ce soir-là, vous êtes entouré de quelques grands chefs, Paul Bocuse, Freddy Girardet, Paul Héberlin, Alain Sandrins.
Alain Sandrins, oui.
Et vous expliquez, vous êtes très très enceinte, vous-même, puisque vous allez accoucher 3 heures plus tard, vous allez nous raconter, mais vous expliquez que si les femmes sont absentes des brigades, c'est surtout parce que ces messieurs, en particulier ceux qui sont autour de la table, refusent de les accueillir et refusent de les former. La réaction de Paul Bocuse, et aujourd'hui en tout cas, on peut la qualifier de choquante, parce que la réaction de Paul Bocuse, c'est de dire « Ah mais c'est parce qu'à l'époque, on n'avait pas vu votre photo ».
Oui.
Voilà. Alors, ça dit quand même quelque chose d'un certain milieu, de l'époque. Est-ce que vous en souffriez? Est-ce que vous souffriez de remarques sexistes? Est-ce que vous vous sentiez seule? Enfin, vous n'étiez pas la seule femme, hein, mais à ce niveau-là, quand même, vous n'étiez pas nombreuses. Donc, comment viviez-vous ça?
D'abord, quand Paul Bocuse dit ça, ça m'amuse plutôt. Je ne prends pas ça au premier degré. Et comme je sais qu'il est
venu chez moi
et qu'il a adoré le restaurant, ça m'amuse plutôt. Il avait un grand sens de l'humour. Il faisait beaucoup de blagues très drôles. Et ça ne me gêne absolument pas. Quant aux gens qui auraient pu être sexistes avec moi ou dire du mal, ça ne m'est jamais arrivé en face. Alors c'est comme toujours, si j'avais su, je me serais peut-être révoltée, mais ça ne m'est jamais arrivé, je n'en ai jamais souffert. Et j'avais tellement de travail que
autre chose
ça
ne
m'intéressait pas, j'avais surtout autre chose à faire.
Racontez-nous quand même cette soirée qui est une soirée épique.
Alors en effet, c'est épique parce que je suis enceinte de ma fille Sarah. Je dois faire absolument cette émission parce que faire les pivots, on loupe pas ça. D'abord, Pivot en parle, peut-être que Olympe va venir, mais on n'est pas sûr, elle va peut-être accoucher. En fait. Donc il en parle déjà depuis 2 fois avant l'émission et 2 fois après. Donc ça fait beaucoup de publicité. Et le matin, il faut que j'aille à l'hôpital pour accoucher, parce que c'est le moment. Donc je vais à l'hôpital et je leur dis, vous vous débrouillez comme vous voulez. Mais moi, il faut que je fasse mon émission chez Pivot, je ne veux pas coucher maintenant. Donc, il faut que je sois, je sais plus à quelle heure on devait être sur le plateau, disons vers 8h, un truc comme ça, je reviendrai après. Il me dit, mais attendez, mais Madame Versigny, c'est pas possible, etc. Ah bon, je dis, moi, ça m'est égal, j'accoucherai pas maintenant. Toujours est-il qu'à 7h30, je prends une ambulance avec mon médecin accoucheur qui vient. Je fais très contente mon émission, ça se passe parfaitement bien. Sur ce, j'invite tous les gens qui sont sur l'émission à dîner au restaurant. Donc, nous voilà partis au restaurant. Je fais la cuisine, je m'occupe d'eux et tout se passe bien. Et à 3h du matin, je repars à l'hôpital.
Et vous accouchez?
Et j'accouche le lendemain, 11h midi.
De votre fille Sarah?
Et de ma fille Sarah, voilà.
Bon, ça dit quand même quelque chose de du caractère, de la personnalité que vous étiez.
Ah, je voulais pas manquer
à l'époque,
émotion.
Quand même aussi. Olympe Versigny et la reine de Paris, que vous a donné Jacques Maximin, c'est aussi parce que à l'époque, on a commencé de le dire dans l'émission précédente, mais à l'époque, vous faites vraiment votre cinéma. Là, vous qui aimez le cinéma, il se trouve que tout le monde se presse dans votre restaurant, en particulier les stars du cinéma et du rock. Tout le Gotha parisien et les stars hollywoodiennes. Alors, on peut donner des noms, hein. Francis Ford Coppola, Robert De Niro, Orson Welles, Clint Eastwood, Mick Jagger, Catherine Deneuve, Isabella Gianni, Jane Birkin. Ça vous impressionnait, ça?
Alors, ce monde-là,
ou pas du
tout? Je vais vous dire, c'est toujours.
Rien ne vous impressionnait.
C'est toujours la même chose. La personne qui m'a impressionnée, c'est Orson Welles. Parce que j'aime le cinéma. Il est d'abord arrivé, on ouvrait le restaurant à 20h, il avait demandé à venir à 7h30. On l'a reçu, parce que je pense qu'on savait que c'était lui. Il s'est mis dos à la salle, sur une face à un rideau, tout seul dans la salle. Il a mangé, et quand les premiers clients sont arrivés, il est parti. Il voulait être tout seul. Donc j'étais très impressionnée, mais tellement impressionnée que je ne suis même pas allée le voir.
Vous n'avez pas réussi à surmonter votre timidité?
Non, je ne suis pas allée le voir, mais ça a été une marque importante. Mais après Clint Eastwood, tout ça, je les ai vus. Il y avait aussi Jack Lemmon, vous voyez qui c'est dans certains Lemmon Show.
Bien sûr.
Ça, c'était impressionnant parce que j'adorais cet acteur, j'adorais le film. Et c'était marrant que ce monsieur qui représentait le cinéma américain pour moi soit venu au restaurant. Vous voyez Jerry Lewis et tout ça. C'était une époque. C'était pour moi des vraies stars hollywoodiennes, quoi.
Voilà. Il venait une fois ou il revenait?
Alors, Clint Eastwood, il est venu plusieurs fois. Puisqu'une fois, il m'a demandé en mariage, je lui ai dit que j'étais mariée. Et la deuxième fois, il est revenu, je dis, je suis libre, si vous voulez. Il m'a dit, mais là, moi, je viens de me marier. Donc, voilà. Donc, il est venu, je sais qu'il est venu plusieurs fois. Il y avait Ryan O'Neill aussi qui est venu. Bon, il y en a qui sont, Sophia Loren aussi est venue plusieurs fois, etc. Disons que j'avais pas vraiment d'abord, je n'avais pas envie d'aller dans la salle. Je ne voulais pas voir les clients.
Ça, c'était réservé à Albert.
Ça, c'était réservé à Albert. Moi, où j'étais bien dans la cuisine et je voulais y rester. Faire le tour de la salle pour me montrer, ça ne m'intéressait pas.
Vous veniez même pas à la fin du repas?
Non. Albert me forçait.
Donc vous profitiez pas de ce beau monde qui venait vous voir?
Non, je profitais des gens que je connaissais, et si vous voulez, si Coppola venait, si Miloš Forman venait, je les connaissais bien parce qu'ils sont venus, Roman Polanski, sont venus un nombre de fois importantes.
Alors, vous étiez fidèle.
Là, j'avais toujours du plaisir à être avec eux, à aller parler avec eux, etc. Mais ça, c'était à la fin du service.
On dit que Mick Jagger se damnait pour les écrevisses de chez Olympe.
Ah, il se damnait. Et d'ailleurs, quand j'ai arrêté de faire des écrevisses, il n'est plus venu. Voilà, en effet.
Et Catherine Deneuve, c'était plutôt les langoustines.
Ah, Catherine Deneuve, c'était les langoustines, oui.
Et De Niro, les pâtes.
Et De Niro, les pâtes. Et Coppola, les pâtes.
C'était une époque bénie pour vous, ça?
Pour moi, c'était...
Ou c'était vraiment du travail, trop de travail?
Une époque très fatigante. Et comme vous dites, moi, ce que j'aime, c'est la liberté. Je manquais beaucoup de liberté à cette époque-là. Parce que j'étais dans une espèce de moule. Il fallait jouer le jeu aussi. Enfin, entre guillemets, il fallait jouer le jeu avec les journalistes, quoique je n'aimais pas les voir trop. Il fallait jouer le jeu avec la télévision, parce que je faisais des émissions. À ce moment-là, j'ai commencé en 78, la première émission de télévision, mais en direct, ce qui n'a rien à voir avec ce que faisaient les autres, tout était enregistré. Evry Géry me disait, aujourd'hui tu as 12 minutes. Elle pouvait me dire, t'as 9 minutes là.
C'était une recette en direct chaque semaine.
Chaque semaine.
Et l'émission qu'animait Evry Géry à cette époque s'appelait Le regard des femmes.
Le regard des femmes.
C'était sur TF1.
C'était en effet sur TF1. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes, je crois qu'il y avait 3 chaînes à l'époque. Et il y avait aussi tous les jours la radio. Au début... C'était vers 8h30 le matin, mais comme je faisais la fête et que je me travaillais beaucoup et que je me couchais tard, Eve a eu la gentillesse de me faire passer à 10h, après je gagnais 2h.
C'était sur France Inter.
C'était sur France Inter et j'ai fait ça aussi des années.
Vous y alliez tôt le matin?
Toutes les recettes pour des journaux, Le Figaro, une fois par semaine, des recettes. Dans d'autres magazines, une fois par mois, des recettes. Les voyages à l'étranger, pour y travailler, au Japon, aux États-Unis, etc. Donc, ça demandait du boulot. Et puis, il y avait aussi les enfants que je ne voyais pas tellement.
Donc reine de Paris, reine des médias aussi.
Oui, oui, oui.
Parce qu'il y avait devant, derrière, Olympe Versigny. C'est-à-dire que vous faisiez des recettes en direct à la télévision et à la radio, mais aussi un nombre incalculable de reportages, d'articles.
Oui.
Vous étiez consacré jusqu'au New York Times, hein, qui vous a consacré
bien sûr,
deux pages.
Exactement.
Après les trois tocs Goemio. Il faut nous replonger dans l'époque. C'est pas évident de mesurer à quel point... vous étiez vraiment importante à l'époque, aussi bien parce que vous étiez donc encore une fois rare à être des femmes dans des cuisines de restaurants, mais aussi parce que à l'époque, trois tocs Goemio, une étoile Michelin, vous passez dans une autre dimension. Vous devenez
oui,
vraiment
et il y en avait pas
et c'est pourtant les chefs ne sont pas encore des stars. La starification est venue plus tard.
Non, si les chefs sont des stars à cette époque-là. D'ailleurs, il y a peut-être une photo pour un grand magazine où je suis la seule femme avec les chefs. Il y a Bocuse, Alain Sandrins, enfin
Michel Guérard.
Michel Guérard. Les chefs commencent à être connus quand Michel Guérard ouvre son premier restaurant en 72. Bocuse, Trois Gros, c'est aussi, ils font le tour du monde. Ils vont à Disney, ils vont partout pour vendre leur marque. Donc, les hommes sont très connus.
Donc vous intégrez ce petit...
Donc j'intègre le cercle
des
hommes connus.
Alors il faut aussi dire que quand vous vous mettez à faire de la télévision, vous devenez la première femme chef à faire des recettes en direct. Avant, il y avait seulement Raymond Oliver dans Art et magie de la cuisine, qu'il avait fait de 1954 à 1967, c'était encore le RTF, avec Catherine Langeais, mais c'est lui qui cuisinait,
oui,
c'était pas Catherine
exactement.
Langeais. Puis son fils Michel Oliver l'a fait sur Antenne 2 à partir de 1978, et évidemment Michel Guérard.
Et Michel Guérard aussi.
Assisté d'Anne-Marie Pesson,
oui,
de 1977 à 1981. En fait, Maïté, puisqu'on
après.
On connaît Maïté, Maïté commence
c'est pas
plus
en direct.
Tard. Avec la cuisine des mousquetaires sur,
oui, c'est vrai,
sur FR3.
Oui.
Vous aviez le trac, vous aimiez ça. Alors vous disiez c'est compliqué quand on a 8 minutes, 9 minutes, on ne sait pas. En plus, il faut être très précis pour faire une recette en direct. Ça se passait comment?
Ça se passait que j'arrivais et qu'à ce moment-là, il y avait une personne qui poussait la cuisinière sur le plateau. On mettait le réfrigérateur et tout ça et ça démarrait. J'étais saisie par le trac. Pour plusieurs raisons. La première, déjà, j'étais très timide. Et la télévision me gênait beaucoup pour la vision que ça représentait, ça me dérangeait. Et deuxièmement, j'avais peur de faire un impair en direct. On peut louper quelque chose. J'étais très attentive. Donc, les deux journalistes qui me servaient d'animateurs, je préférais qu'ils ne parlent pas, les pauvres, plutôt que de me déranger dans mon travail. Voilà, c'était très dur et je dois dire, j'aimais beaucoup la radio avant qu'elle soit filmée.
Et vous parlez de louper comme quand on est sur scène et qu'on a un blanc. Alors
ben
que
oui,
vous,
ça...
est-ce que c'est arrivé?
Oui, c'était je crois pour la terrine de légumes. Il me semble que c'était une fois où le four ne marchait pas. Donc la salade, parce que je mettais toujours une feuille de laitue dessus, elle restait très verte. Bon, mais c'était pas bien grave. Malgré tout, à l'intérieur, c'était cuit.
Dans une terrine.
Une terrine, voilà.
Vous avez réussi à la cacher.
Oui, je me souviens plus que j'en ai fait, mais c'est passé. Sinon, je me suis toujours rattrapée.
Combien de temps ça a duré, ces chroniques?
Alors, la télévision, je pense 3 ans. 3-4 ans. Et la radio, 3-4 ans aussi, dans ces eaux-là. Et après, la radio, j'ai repris après, avec Isabelle Quenin, pendant 1 an. Des années après, dans les années 90.
Donc le matin, vous faisiez la radio, le soir, vous étiez au restaurant, la nuit, vous continuez d'aller danser chez Castel?
Oui, 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 bien sûr, plus que jamais.
Et il y avait les enfants?
Ben oui, et puis il y avait les enfants.
Et le mari?
Il y avait mais le mari me suivait chez Castel, il aimait bien aussi.
Après, il y a les livres. C'est-à-dire que le premier livre de recettes que vous avez publié, Olympe Versigny, c'est 1980, La cuisine d'Ève et Olympe,
voilà.
Avec Ève Ruggieri qui était devenue une amie, que vous fréquentiez beaucoup en tout cas à l'époque.
Oui, on se fréquentait assez.
Pourquoi sortir un livre en 1980?
Ben parce que c'est en plein moment des émissions de télé, de radio, et donc c'est un livre qui marche très très bien. Et c'est le premier effet sur les recettes de la radio, et... J'en sors un l'année d'après aussi, qui est là, d'autres recettes.
La cuisine d'Olympe.
La cuisine d'Olympe.
En 1982, le fameux deuxième livre qui connaît un succès immédiat, 80 000 exemplaires, épuisés en 15 jours. Ça voulait dire quoi, faire un livre de recettes à l'époque pour vous?
Ça voulait dire noter les recettes que je fais, parce que je vais les oublier. Et comme je notais jamais rien, et quand je faisais une recette devant l'équipe de cuisine, elle pouvait changer le lendemain. C'était assez difficile pour eux. Mais j'étais toujours en cuisine, et ça se passait quand même relativement bien. Mais c'est eux qui devaient noter pour s'en souvenir. Moi, ça ne me dérangeait pas de pas tellement me souvenir, parce que de toute façon, ça aurait été différent. Vous voyez?
C'était une cuisine de l'instant et ça resterait cuisine de l'instant.
Une cuisine éphémère. De l'instant aussi, très instinctive, avec de la liberté.
Est-ce que vos sources d'inspiration, on en parlait dans l'épisode précédent, vous disiez de toute façon, vous étiez obligé d'inventer sur le moment,
oui.
Donc avant tout c'était la qualité du produit, mais est-ce que vos sources d'inspiration dans ces années-là, du fait des passages, du fait de la fréquentation du monde de la gastronomie avec les chefs qui venaient, est-ce que vous échangiez beaucoup et est-ce que vos sources d'inspiration ont changé à ce moment-là?
Alors, on n'échangeait pas beaucoup sur les recettes. Je peux même dire pas du tout. Moi, ce qui m'a beaucoup fait évoluer aussi dans les recettes, c'est évidemment les voyages. Si j'allais au Japon, ou j'allais en Thaïlande, ou j'allais en Amérique, ou j'allais un peu partout.
Mais vous aviez le temps de ça?
J'allais pour travailler, donc je prenais le temps.
Ça voulait dire quoi, aller pour travailler? On vous invitait là-bas?
Oui, on m'invitait.
Pour cuisiner?
Pour cuisiner. Par exemple, j'allais aux États-Unis j'ai ouvert, ça c'était en 78, j'ai ouvert le sixième étage des magasins Bloomingdale, qui était le premier étage de produits et de matériel de cuisine. Donc je suis allée pour faire des démonstrations de cuisine. Je suis allée aussi au Japon j'y suis allée un mois et demi pour un grand magasin qui s'appelle Takashimaya, qui existe toujours, pour faire des repas gastronomiques, parce qu'à l'époque, c'était des magasins où il y avait des restaurants. Et où il y a toujours des restaurants, ils avaient au minimum 7 restaurants, c'est-à-dire un restaurant gastronomique, où j'étais allée pour faire la cuisine dans ce restaurant, puis d'autres restaurants de cuisine japonaise, etc.
Donc, les voyages, et en particulier le Japon, vous a nourri à l'époque?
Le Japon, j'ai adoré. J'ai adoré le Japon, j'ai adoré leur cuisine, et ça m'a aussi influencée. Je peux pas dire un peu sur le cru, malgré tout. Ça, c'était en 82, mais je faisais aussi un petit peu de cru avant, j'ai l'impression. Mais après, j'ai fait beaucoup. Par exemple, j'ai fait un menu que j'appelais le menu tout dorade. Je faisais un menu qui tournait autour d'un produit. Le menu tout dorade, je faisais de la dorade crue, un bouillon de dorade avec des filets de dorade crue sur lequel on versait un bouillon de dorade chaud et qui cuisait instantanément les filets de dorade. Puis une dorade, je me souviens plus après, cuisinée d'une autre manière. Je faisais ça pour le canard. La même chose, des lamelles de canard cru. Après une soupe, j'appelais ça la soupe au canard, etc. Donc aussi, je faisais quand même du cru à l'époque.
Et vous étiez aussi la sauce soja.
Une sauce
que vous avez très tôt connue.
Très tôt, à 8 ans. J'ai connu la cuisine vietnamienne à 8 ans parce que dans le village où j'étais, donc à Meun, il y avait une famille vietnamienne qui s'était installée. Donc je les ai évidemment rencontrés. Ils avaient des enfants de mon âge avec qui j'étais à l'école. J'allais manger chez eux. Et j'ai crois, de ma vie entière, je n'ai jamais mangé des nems aussi bons. J'ai un souvenir exceptionnel de ce produit et donc de sauce de soja. Mon père aussi connaissait bien la cuisine chinoise et vietnamienne parce que lorsqu'il était étudiant en droit à la Sorbonne, il y avait beaucoup de restaurants chinois et vietnamiens dans le quartier. Et après, quand je suis allée avec lui dans des restaurants chinois, quand j'ai eu 13 ans, il m'emmenait aussi dans des restaurants chinois.
Donc, vous êtes aussi nourri de toutes ces expériences.
Mais bien sûr.
Et la cuisine que vous faisiez dans ces années-là, donc les années 80, Olympe Versigny, est une cuisine inspirée, empreinte
de
toutes ces cultures.
Et mon ex-mari étant né à Marrakech, la première fois que je suis allée au Maroc, je me souviens plus dans les années 75-76, j'ai découvert les épices de la manière dont on les découvre au Maroc. Je ne connaissais pas autant les épices. Le marché aux épices, les herbes et les épices, c'était exceptionnel.
La Reynière avait dit en 74 que vous mettiez des herbes partout.
Et des épices aussi.
Les épices aussi. Oui. Et ça, vous l'avez conservé 10 ans plus tard?
Je l'ai toujours conservé. Les assaisonnements, j'aime les assaisonnements très puissants et très goûteux. J'aime beaucoup l'acide. Donc, moi, je dis un plat, il lui faut toujours de l'acidité dedans. Donc, j'adore tout ce qui est vinaigre de riz, vinaigre que je fais moi-même, etc. Des fruits au vinaigre, tout ça. Ça rentre aussi dans des assaisonnements de ma cuisine.
À quel moment, Olam Versini, si jamais ça t'est arrivé, vous êtes-vous dit que ça y est, vous étiez une cuisinière?
Je me suis jamais posé la question. Parce que, en fait, étant une cuisinière autodidacte et ayant qu'une envie, c'est faire la cuisine qui me plaît, ne lisant pas de livres de cuisine, je ne suis pas pâtissière. Il m'est arrivé de faire des desserts, mais ce sont des desserts traditionnels. Je ne suis pas quelqu'un qui est dessert du tout. Je n'aime pas le sucre, très peu. Alors j'ai fait des desserts, vous savez, des desserts traditionnels, pour avoir des desserts au restaurant.
Tarte au citron, par exemple.
Tarte au citron, des œufs à la neige. En revanche, j'ai fait beaucoup de sorbets de glace. Parce que quand je me suis installée en 79-80 dans le restaurant, on a ouvert ce restaurant gastronomique, j'étais allée en Italie et j'ai acheté deux machines. Une machine à glace, importante, où je faisais la glace moi-même, toutes les sortes de glaces, et une machine à faire les pâtes aussi, qui n'était plus la petite machine manuelle, qui était une machine imposante où je faisais des pâtes de différentes manières.
Rétrospectivement, comment avez-vous vécu ces années déjà? Est-ce que vous aimiez ce que vous faisiez? Puisque ce n'était pas une évidence pour vous, vous ne vouliez pas devenir cuisinière.
Non, j'aimais ce que je faisais. Sincèrement, j'aimais la cuisine. Je n'ai jamais regretté avoir fait la cuisine. En revanche, je trouve que on perd beaucoup, et maintenant plus qu'avant, parce que avoir un restaurant, ce n'est pas faire la cuisine. Avoir un restaurant, c'est faire une gestion personnelle, s'occuper de la décoration. Bon, ça, à la limite, ça me plaisait. J'aime beaucoup la vaisselle, j'aime tout ça. Tout ça, ça ne me dérange pas. Mais en revanche, faire la gestion du personnel, s'occuper de la comptabilité, du food cost et de tout ça, ça, c'est d'un ennui mortel. Et c'est une perte de temps énorme pour le plaisir de la cuisine.
Mais donc, cuisiner, ça vous aimiez. Et vous avez jamais perdu le goût de la cuisine.
Je fais la cuisine tous les jours, pour moi, toute seule. Je fais la cuisine tous les jours.
Et rétrospectivement, là encore, Olam Versini, comment expliquez-vous votre succès à l'époque?
Je pense que c'était bon, les gens aimaient ça.
Déjà, c'est une bonne explication.
Voilà, moi je pense que c'était ça, ils aimaient ça. Il y avait quand même une simplicité, mais une originalité. Je n'ai jamais été pour les menus dégustation. Et donc, il y avait dans l'assiette de quoi manger, suffisamment. Donc, tout ça jouait, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait une assiette où on avait une quantité logique de produits, il n'y avait pas de mélange énorme de tas de... Par exemple, aujourd'hui, c'est les fleurs. Alors, les fleurs, je vais vous dire, ça a déjà existé dans les années 70. Et moi, mon expression a toujours été de dire si les fleurs, c'était bon, on le saurait. Bon. Et je suis dit, moi, je ne suis pas esthéticienne. Je suis cuisinière. Donc, je ne me sers pas de pince à épiler pour faire la cuisine. Voilà. Donc, quand on met une petite fleur avec une pince à épiler sur un plat, j'estime que ce plat, déjà, a perdu beaucoup de sa concentration de cuisson, parce qu'il reste un petit moment pour la décoration, sous des lampes qui vont le garder chaud. Mais il a perdu tout le fait d'être cuisiné immédiatement, dressé dans son assiette et mangé par le client. Donc, je suis contre tout. La farandole de fabrication qui tourne autour d'un plat.
On est toujours dans les années 80, 85. En 85, Olympe Versini, vous prenez la responsabilité de la carte du restaurant des bains-douches. Alors les bains-douches, c'est un fameux club.
Ah oui, c'est la fête au village.
À l'époque, ça veut dire quoi? Être chef des bains-douches, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que je travaille plus, déjà. Parce que quand j'ai fini, disons, à 11h30 au gastro, parce que c'est à l'époque du restaurant gastronomique, faut que je file au bain. Non pas pour y faire la cuisine, mais pour la surveiller et pour être là. Parce que à l'époque, au bain, on sert, je pense, entre 300 et 400 couverts par nuit. Et ça, moi, c'est un métier que je fais avec des vrais produits, avec une vraie carte. Et j'ai en plus sur le dos la bande des bains. C'est-à-dire que j'ai Claude Challes, Hubert Bokovza, qui sont des gens au demeurant extrêmement sympathiques, mais qui sont 5 ou 6 à donner leur avis. Alors, par exemple, il y en a un qui rentre des États-Unis qui arrive et dit « il faut qu'on fasse des pizzas maintenant avec tout sur le truc ». C'est pas du tout mon truc. Je dis « il n'en est pas question ». J'ai tenu coup 3 ans en faisant la carte que je voulais avec les produits que je voulais. Parce que c'est très difficile d'avoir.
Ça n'a rien à voir avec la carte d'un restaurant gastronomique eux, que vous teniez.
Comme... Oui, mais bien sûr.
La carte d'un club.
Ben, la carte d'un club.
Ça ressemble à quoi? Pizza, burger, quoi?
Non, là, moi, je ne fais pas ça. Hein. Alors, par exemple, je faisais le thon cru à la japonaise. Je faisais aussi un pavé de thon parce que j'y étais une des premières à faire du thon au restaurant. Je fais ça, en fait, le thon, je le mets à la carte dans les années, au début des années 80.
Ça ne se fait pas à ce moment-là.
Je crois que ça ne se fait pas. Je crois que je l'ai découvert aux États-Unis parce que je vais dans des restaurants japonais aux États-Unis en 78. Et après, je fais un circuit de la côte Est. En été 78, j'arrive à Los Angeles et là, il y a un grand cuisinier japonais qui a à l'époque un restaurant de 10 mètres carrés et où il fait les meilleures cuisines japonaises du monde. Il existe toujours, mais il a un empire maintenant. Et là, je découvre la cuisine japonaise et c'est à la suite de ça que j'ai envie de faire du thon. Mais je fais du thon en pavé très épais, à peine doré de chaque côté et cru au milieu. Et je fais aussi du thon cru, complètement cru. Et ça, je le fais au bain, parce que c'est des plats qui restent à ma carte tout le temps, parce que les clients adorent ça. Je fais aussi des raviolis de homard, des raviolis de canard.
Que vous faites aussi au gastro.
Que je fais aussi au gastro. Et puis d'autres plats plus simples, des petits coquelets grillés avec une sauce diable et d'autres choses.
Vous aimez les défis, en fait, Olympe Versigny. Parce qu'en 87, vous vous rendez aussi régulièrement à Saint-Barthélemy parce que vous signez la carte d'une des meilleures tables des Caraïbes, le Guanahani. Et puis, la même année, vous ouvrez le comptoir dans le premier arrondissement de Paris. Alors, le comptoir, il est ouvert de 9h à 2h du matin. Et là, vous proposez des tapas. Encore une fois, ça ne se fait pas à l'époque, c'est avant-gardiste, les tapas.
Il y a un seul restaurant à tapas qui existe à Paris, qui est rue Saint-Gilles, je crois qu'il existe, ça s'appelle les Caves Saint-Gilles, qui font de tapas à l'espagnol, et que ça. En revanche, moi, quand j'ouvre le comptoir, je fais des tapas façon monde. Donc ça peut être des boulettes de viande façon marocaine, ça peut être du thon cru à la japonaise, ça peut être des petites brochettes grillées de boudin, d'andouillette, de choses comme ça. Je mêle tout ça, un mélange de produits et de recettes qu'on sert dans des petites assiettes façon tapas. Et là, ça a un succès extraordinaire.
Si bien qu'en 1988, vous plaquez tout, Olympe Versigny, pour vous lancer dans autre chose. C'est ce que nous verrons dans l'épisode suivant, l'épisode 4, Une autre époque.
Une autre époque, en effet.
À demain.
À demain, au revoir.
C'était À Voix Nue avec Olympe Versigny. Réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Benjamin Perru, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.